Alors, on dit quoi ?
Coucou, c'est Diarra, c'est parti pour 50 minutes de notre émission Alors, on dit quoi ? Une émission, pour une fois, qui nous est exclusivement réservée, nous, les jeunes. Notre avis compte, alors c'est simple, je vous donne le micro, on le partage, il est à nous. Et pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, eh bien, je suis Diarra Ndiaye. Ma mission, vous donner la parole chaque samedi sur RFI. Je suis une jeune journaliste et je me pose les mêmes questions que vous sur l'avenir, la vie de famille, les angoisses, la carrière, la santé, les galères. Vous l'aurez compris, je m'intéresse à notre quotidien. Justement, comme d'habitude, on a un programme chargé. D'abord, direction le Niger, où nous irons à la rencontre d'Ousmane, un jeune Nigérien handicapé. Il nous parlera de son parcours et de son engagement en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap au Niger. Et puis Abdoulaye, un danseur malien, nous racontera comment il favorise l'insertion professionnelle des élèves déficients auditifs à Bamako, Koutiala et Ségou au Mali. Notre cher Johan vous donnera des pistes pour apprendre à parler plus facilement l'anglais. Et enfin, nous accueillerons Anna qui dorénavant nous parlera de culture et ce samedi de la 6e édition du festival Bogodia qui se tient ce week-end à Sibi au Mali. Et enfin, rassurez-vous, je n'ai pas oublié la chronique de Valdez qui reviendra sur une rumeur qui a circulé au Sénégal au sujet notamment de la composition des familles sénégalaises. Le programme est dense, alors je vous propose de commencer dès à présent. Atiagnudem, c'est parti.
Alors on dit quoi avec Diarra Ndiaye?
Alors on dit quoi a eu envie de sensibiliser à la complexité des problèmes d'invalidité et aux défis auxquels font face les jeunes personnes handicapées. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus d'un milliard de personnes, c'est-à-dire environ 15% de la population mondiale, est concernée par le handicap. Aujourd'hui, on s'interroge sur la place des personnes ayant un handicap dans notre société. Les lois progressent dans de nombreux pays, les organisations internationales communiquent et mènent des campagnes sur l'inclusion de ces personnes pour un meilleur accès à la scolarisation, à l'emploi. Mais la vie des personnes handicapées s'améliore-t-elle pour autant? Élément de réponse dans ce reportage de Bouli, notre correspondante au Niger.
Assis à même le sol dans un kiosque métallique qui lui sert d'atelier, Ousmane confectionne un ballon de football de ses propres mains. Passionné de football, il est habillé aux couleurs de l'équipe nationale du Niger, le MENA. Ousmane touche du bout des doigts sa passion en réparant chaque jour des ballons. Grand amateur du ballon rond, il ne peut en jouer. En tout cas, pas avec ses pieds. Le jeune Nigérien est handicapé moteur depuis ses 2 ans, âge où il a contracté la poliomyélite. Paralysé des 2 jambes, Ousmane n'a jamais fréquenté l'école. À ses 16 ans, il a été formé au métier de l'artisanat.
Je suis un artisanat matériel et sportif. Comme les ballons, comme les filets, comme les sacs de frappe, toutes les certains matériels sportifs que je fabrique.
Ousmane arrive à vivre de son travail. Devant son atelier, les clients défilent. Cette activité lui génère environ 100 000 francs CFA de revenus mensuels.
Par mois, on va trouver 75 000 ou bien les 100 000 comme ça. Mais si c'est les pays qui vont bloquer, c'est la patience seulement.
Aujourd'hui, parmi les clients, il y a Ousseini, un entraîneur de football.
Oui, je suis un coach, j'achète des ballons avec Soumana. Chaque année aussi, je lui amène des clients, pas moi seul. Et chaque année, je lui cherche des clients. Et moi-même, chaque année, j'achète des ballons. Et aujourd'hui, je suis venu même récupérer un de mes ballons que j'ai acheté. Parce que j'ai acheté à peu près 5 ballons avec lui. Maintenant, ça reste un ballon. C'est le ballon que je suis venu prendre aujourd'hui avec lui. Vraiment, je suis satisfait de son travail.
Marié et père de 2 filles, Ousmane a également sous sa responsabilité 7 employés. Eux aussi porteurs d'un handicap. Il leur transmet son savoir-faire. Car pour Ousmane, le handicap n'est pas une fatalité, bien au contraire.
L'handicap, ce n'est pas une fatalité, c'est une mentalité. Donc, je sais, notre handicap, ils n'ont pas empêché de faire travail. On a beaucoup aidé les pays parce que sans nous, il n'y a pas métier pour faire matériel sportif ici au Niger.
Ousmane est un travailleur acharné. Pour Maliki, un de ses employés, c'est même un patron exemplaire.
Je n'ai pas de problème avec lui. Il me paye en fonction de mes efforts et de ses recettes. mais je n'arrive pas à satisfaire mes besoins avec. C'est vrai que des fois, il y a des malentendus entre nous, mais cela n'empêche pas d'être toujours disponible pour nous.
Le jeune Nigérien vit sa vie à 100 000 à l'heure. Ousmane fait de son handicap un atout. Un atout qu'il met également au profit de l'association des handicapés moteurs de Niamey, où il est chargé des affaires culturelles.
Dans l'association handicapés locomoteurs, je suis chargé d'affaires culturelles sportives. Et j'ai été membre du conseil communal des jeunes, plus précisément premier arrondissement. Et je suis ex-membre du conseil national de la jeunesse.
Salamatou, sa mère, assise devant ses marmites, est fière de son fils. Elle se souvient encore des nombreux préjugés qu'elle a dû surmonter depuis la naissance de son fils.
Dieu merci, maintenant tout va bien. Avant, les gens se moquaient beaucoup de nous, comme il est toujours assis. Aujourd'hui, il gère toute une famille. C'est sa femme qui prépare à manger pour nous. C'est parce qu'elle est absente aujourd'hui que vous m'avez trouvée à la cuisine.
Ousmane est aujourd'hui sur tous les fronts. En plus de son travail et de sa vie associative, il rêve de créer un centre de formation pour tous les enfants de la rue au Niger.
Merci à Bouli pour ce reportage et ce beau portrait d'Ousmane. Ousmane qui nous livre un témoignage plein d'espoir. Et pour cette émission spéciale, nous accueillons un invité d'exception qui a accepté de venir témoigner au micro de RFI. Bonjour et bienvenue à vous, Ismaël.
Bonjour.
Alors, Ismaël, je vous ai vu sourire un petit peu durant ce reportage où on présente Ousmane. Que vous évoque son parcours? Parce que vous êtes, vous aussi, handicapé?
Oui, en tant qu'une personne handicapée moteur, depuis l'âge de 2 ans, j'ai été amputé de mes 4 membres à cause d'un accident de train. Et en écoutant ce monsieur, je me sens dans la même situation. Je ressens ce qu'il ressent et aujourd'hui, ce qu'il est devenu, je pense que c'est la force du handicap qui l'a poussé à arriver jusqu'à là. Ça me touche beaucoup de voir dans un pays comme le Niger les difficultés que les personnes handicapées rencontrent, de voir qu'il arrive à s'en sortir, il arrive à se prendre en charge. Je ne peux qu'être fier.
Quand vous parlez de sentiments, vous parlez de quel sentiment précisément?
D'abord de fierté et aussi de...
D'espoir?
D'espoir, quand je regarde en arrière tout ce qu'il a dû braver pour en arriver là, on ne peut que le féliciter, on ne peut que être avec lui et avec tous ceux qui sont dans la même situation et qui essayent de s'en sortir.
Vous pouvez également être fier de votre propre parcours. Vous êtes étudiant et vous travaillez également. Parlez-nous de votre parcours professionnel.
Ben oui, c'est un parcours atypique, hein, si on peut bien le dire. D'abord, à l'âge de 2 ans, j'ai été lourdement handicapé et l'inscription a été très difficile.
À l'inscription à l'école?
Oui, à l'école, parce que dans nos sociétés, le handicap était vu comme quelque chose qui ne servait à rien.
Au Burkina Faso, vous êtes
Burkina Faso en son temps. Donc, mon papa et mes parents, ils ont dû se battre pour que je puisse avoir une inscription. Et après l'inscription, il fallait aussi être là, être libre pour pouvoir me soutenir, me donner encore l'envie de continuer, de ne pas m'arrêter et tout ça. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois tout le parcours que j'ai dû braver pour arriver jusqu'en France ici. Ça ne s'explique pas. Moi-même, je ne m'explique pas, mais voilà, c'est une chance. Et peut-être une opportunité.
Alors, du coup, vous êtes né au Burkina Faso. Vous avez étudié au Burkina Faso jusqu'à
l'âge... étudié au Burkina Faso jusqu'à il y a 2 ans de cela. Je suis venu en France pour faire une licence en droit à l'université Sergi Pontoise. Les remercier pour l'opportunité qu'ils m'ont offert pour pouvoir continuer mes études dans de bonnes conditions en France.
Alors, on salue également l'université de Sergi Pontoise. Alors actuellement, vous êtes étudiant en droit, c'est bien ça?
C'est bien ça. Et je travaille à la mairie de Suresnes en tant que chargé de projet de déontologie et handicap. Et j'ai la lourde tâche de former les agents en déontologie, en droit et devoir du fonctionnaire à la mairie de Suresnes.
Alors, on va continuer de parler de votre parcours, Ismaël, mais on a également des auditeurs qui sont en ligne avec nous. On a Aïssata qui est avec nous. Aïssata, bonjour.
Bonjour, Diarra, bonjour à tout le monde.
Alors, Aïssata, vous êtes une mère d'une enfant qui est atteinte de trisomie.
Exactement.
On vient d'entendre le portrait plein d'espoir d'Ousmane qui est handicapé et qui vit pleinement sa vie. Vous vouliez vous aussi apporter votre témoignage sur cette vision du handicap?
La chose que j'ai remarquée et que j'ai beaucoup appréciée déjà dans votre reportage et aussi par rapport au parcours de votre invité, c'est que le handicap n'est pas une fatalité. c'est formidable de voir des gens qui se battent, et pourtant ils n'ont pas forcément les moyens de se battre, mais ils se battent pour avoir quelque chose dans la vie, et ça c'est formidable. Moi, ma fille, j'espère vraiment qu'elle aura cette force dans la vie. Ce n'est pas les mêmes handicaps, elle a beaucoup plus d'aide parce que nous sommes ici, mais c'est une fierté, ces gens-là sont des fiertés pour nous. Maintenant, par rapport à mon expérience, ma fille est encore petite et j'espère vraiment, grâce à toutes les aides qu'on a ici, qu'elle puisse aller le plus loin possible, qu'elle soit autonome.
Je vous le souhaite, madame.
Merci, c'est gentil.
Merci beaucoup, Aïssata, pour ce témoignage. On a également en ligne Boubacar Sanso-Barry.
Bonsoir à tous les auditeurs.
Barry, vous êtes journaliste et administrateur général d'un site d'information en Guinée qui s'appelle Le Djeli, c'est bien ça?
Oui, legeli.com.
Alors, vous aussi, votre parcours est très intéressant. On parle un petit peu d'intégration depuis tout à l'heure. On voit que tout est possible et qu'il faut intégrer les personnes handicapées puisque le handicap n'est pas une fatalité, comme l'a si bien dit Aïssata. Parlez-nous de votre parcours professionnel, Boubacar Sanso-Barry.
Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis journaliste de profession et je suis administrateur du site depuis 2015. Globalement, c'est comme Ousmane, j'ai aussi sous ma responsabilité quelques employés, 4 au total, des journalistes mais aussi une assistante. Les journalistes, je les déploie sur le terrain et ils récoltent les informations. C'est moi qui m'occupe de la correction, de la mise en ligne. Je dois dire que Internet me facilite relativement la tâche parce que autrement, l'environnement ne se prête pas au déplacement des personnes handicapées. Donc, voilà, j'applaudis vraiment l'avènement d'Internet.
Et vous dites souvent que justement, le handicap n'est pas une fatalité. Vous l'avez accepté, vous, votre handicap? Vous êtes handicapé moteur depuis le jeune âge, c'est bien ça?
Depuis 4 ans. Et comme Ousmane, c'était lié à la poliomyélite. Mais, comme le disait Ismaël tout à l'heure, d'une certaine façon, moi, je fais corps désormais avec le handicap. Je ne m'imagine pas d'une autre façon. Ça ne me gêne pas, ça ne me frustre pas. C'est devenu comme une seconde nature pour moi.
Ismaël, je vous vois sourire effectivement. Allez-y.
Oui, moi je dirais que le handicap est une chance. En ce moment, ça devient une opportunité dès lors qu'on abandonne la fatalité en fait. Donc directement, on se sent supérieur, on se sent meilleur, on se sent bien dans sa peau. C'est ça qui est le plus important. Et je pense que Ousmane a bien compris l'enjeu du handicap. Aujourd'hui, peut-être que c'est les autres, ceux qui nous regardent, qui nous voient en tant qu'handicapés. Mais nous-mêmes, visuellement, on se voit pas en fait. C'est ça ce qui est bizarre. Souvent, je vois des gens qui me disent, oui, oh, le pauvre, il est en fauteuil roulant, regarde comme il est. Moi aussi, j'ai dit souvent, oh, le pauvre, regarde comme il marche à pied. Ça doit être fatigant de faire tout ça.
C'est le monde à l'envers, voilà, effectivement. D'accord. Et Ismaël, est-ce que vous avez le sentiment que pour réussir, vous devez donner davantage pour faire justement oublier votre handicap?
On est obligé d'avoir des techniques, on est obligé de voir le handicap sous l'élan de l'humour pour que ça puisse passer plus facilement et que ça puisse capter l'attention des gens. Donc, c'est devenu comme chez nous, c'est notre boulot à nous, en fait. On va d'abord vers l'autre dans l'humour et avant de lui montrer qui nous sommes en réalité.
Vous parliez de pitié, c'est ce regard-là finalement qui prime. Est-ce que ça vous fait mal justement de ressentir que finalement ce qu'on voit c'est que votre fauteuil roulant avant votre personne?
Ben ouais, mais c'est comme ça. Le monde est fait aujourd'hui que moi j'appellerais parfait. On veut le corps parfait, on veut le physique parfait, on veut des beaux visages et tout. En réalité, on oublie de voir ce qui est au fond des gens, ce qui fait de nous des êtres humains. Notre cœur, notre envie de vivre, notre façon de nous battre, on ne voit pas ça. Et c'est dommage. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure, je crois que la nouvelle génération est en train de prendre conscience de la situation et avec les sensibilisations des uns et des autres dans les associations telles que le monsieur qui est au Niger là, qui est dans une association, moi aussi je suis dans une association, on sensibilise, on fait des plaidoyers afin de faire tomber ces genres de barrières là.
On a justement Kadidiatou qui est la présidente de l'association des albinos du Niger qui est en ligne, qui a voulu apporter elle aussi son témoignage dans Alors on dit quoi. Kadidiatou, bonjour.
Bonsoir la RFI et bonsoir à tous les auditeurs.
Alors Kadidiatou, on vient d'entendre plusieurs témoignages de personnes qui sont touchées de près ou de loin par cette question du handicap. Vous êtes albinos, résidente au Niger. Vous accentuez notamment les sensibilisations auprès de la population nigérienne autour de la question des femmes qui sont généralement plus vulnérables et quand elles sont handicapées, encore plus vulnérables.
Oui, en ce qui est de la sensibilisation par rapport à l'handicap de manière générale, là, ça concerne en fait l'ensemble de la population. Et les acteurs, les différents acteurs, que ce soit les familles, les personnes handicapées elles-mêmes et les dirigeants aussi. Et pour ce qui est de la question de la femme handicapée, je disais que c'est une double vulnérabilité parce que en étant d'abord femme, et c'est une vulnérabilité. Et en portant le handicap aussi, c'est aussi une vulnérabilité. Donc la sensibilisation à l'endroit des, par rapport à l'inclusion de la femme handicapée, c'est qu'on doit tenir compte de leur situation. Prendre en compte quand il y a des actions ou bien des politiques qui ont pour objectif d'intégrer, de faire la promotion des droits de la femme en général, c'est de prendre en compte aussi la question des femmes handicapées. Parce que quand vous prenez l'exemple du Niger, il y a pas mal de politiques, pas mal de lois qui font la promotion des droits des femmes de manière générale à travers le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Mais jusque-là, la question des droits de la femme handicapée n'est pas prise en compte. Donc ce que nous faisons, c'est le plaidoyer, la sensibilisation pour que quand on parle de femmes, quand on parle de droits des femmes, qu'on ne voit pas uniquement la femme de manière générale, qu'on pense aussi à cette spécificité des femmes handicapées.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que le Niger prend à bras le corps, pardon, cette question du handicap, parce que le pays préside le Forum africain des personnes handicapées et de celui de l'Afrique de l'Ouest, et il a adopté différentes lois, notamment sur l'égalité des chances pour les personnes handicapées. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une certaine évolution et que les mentalités bougent au Niger?
Oui, l'évolution. Et surtout avec, je vous avoue que la Fédération nigérienne des personnes handicapées mène beaucoup d'actions dans ce sens. La sensibilisation, le plaidoyer, le renforcement des capacités. Et surtout avec l'avènement de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de sensibilisations qui se font, surtout au niveau des grandes villes. Et ce qui fait en sorte que présentement au Niger, les gens ont commencé à avoir une autre perception du handicap.
Ce qui est intéressant dans ce que Khadidiatou vient de voir, c'est que la parole et l'avis des personnes en situation de handicap est demandée au Niger. Et on va justement en profiter pour écouter la vision du handicap de quelques Nigériens. Écoutons ce micro-trottoir réalisé par Bouli.
Aujourd'hui, dès que la personne est handicapée, forcément la majorité, à 80-90% des personnes qui sont handicapées deviennent la majorité des mendiants. Dès que vous venez au niveau des ronds-points, partout ils vont vous encercler. Parfois, ça ferait même l'objet des accidents.
Les personnes handicapées, c'est des personnes à part entière, c'est des êtres humains, comme tout le monde. Donc nous les devons du respect, comme on doit le respect à tout un chacun. C'est la volonté de Dieu, donc on ne peut pas les exclure de notre société. Ici, c'est des personnes qui ont eu de formation et puis intégrées dans la société, forcément ils vont contribuer au développement de la société.
Pour moi, l'handicapé, c'est une personne normale qui doit vivre comme toute autre personne, qui a droit au bonheur, au mariage, comme toute autre personne normale. Mais il y a des gens qui voient que les handicapés ont quelque chose de différent avec les gens normaux, alors que ce n'est pas le cas. Il y a des handicapés qui font plus que ceux qui sont normaux.
La personne handicapée est une personne normale. C'est fou comme... C'est vrai, mais il faut le rappeler. Ismaël, vous sentez bien intégré dans la société?
Aujourd'hui, la normalité, c'est quoi? La normalité, c'est regarder avec les yeux, voir avec les yeux, marcher avec les pieds, sentir avec la main, entendre avec les oreilles. Voilà, c'est ça qui est la normalité. Du coup, dès lors que quelqu'un arrive à voir autrement ou à lire autrement, par exemple avec le braille, ou à lire avec le langage des signes, il quitte la normalité. Eh bien, c'est la société qui nous a fait comme ça. Donc, c'est difficile maintenant de pouvoir inclure tout le monde dans le même truc. Et pour moi, il est même impossible de le faire, mais seulement, il faut donner la chance à chacun de réaliser ses rêves. Aujourd'hui, à l'école, par exemple, s'il y a 10% des étudiants sont des personnes handicapées, moi, j'aurais voulu que dans l'administration, qu'on ait 10%, par exemple, des personnes handicapées, des travailleurs qui soient aussi handicapés. Si on a 10% à l'université, il va falloir qu'on trouve un moyen de trouver 10% aussi de ces mêmes personnes-là, par exemple, à l'Assemblée, dans les ministères, des trucs comme ça. Et dès lors qu'on va atteindre ce stade, moi, je considère considérer maintenant qu'on est intégré.
En fait, vous avez le sentiment finalement d'être plutôt invisible.
Ben, on n'est pas non, c'est simplement invisible. On fait en sorte qu'on ne soit pas visible. Voilà le problème qui se pose. Par exemple, on nous donne tous les moyens, par exemple, à un enfant handicapé pour aller à l'école. Il finit l'école, il se bat pour arriver à l'université. Et après l'université, toutes les portes se ferment presque. Parce qu'on s'est dit, ben voilà, il peut pas faire le boulot comme tout le monde, il peut pas venir à l'air, ou bien il faut quelqu'un pour l'aider. Tous ces contraintes commencent à venir. Or, au moment où il partait à l'école, on disait, on le forçait à aller, on l'encourageait. Mais au moment où il faut trouver un moyen, ou bien qu'on
trouve un emploi,
par exemple, et là, les portes commencent à se fermer petit à petit.
Ça a été difficile pour que... vous d'avoir
mais bien sûr, cet emploi à mais la mairie. Bien sûr, mais quand je dépose les dossiers, souvent tu déposes les dossiers, on t'a pas vu, et au téléphone, tu penses que tout est bien
tout
fait.
Bien, ouais.
Et dès lors que tu pars à l'entretien, quand la personne te voit, avant même de t'interroger, tu sens son visage, tu sens son regard, dans son regard, que tu ne seras pas pris. Bah, ça m'est arrivé une dizaine de fois avant que j'arrive à trouver un boulot à la mairie.
Ismaël, vous avez aussi des projets, notamment dans le milieu associatif. Parlez-nous de vos projets.
Aujourd'hui, je suis président de l'association Phare International qui milite pour les sensibilisations et l'envoi du matériel en Afrique pour les élèves et étudiants handicapés du
matériel
Burkina.
Matériel scolaire?
Scolaire, didactique, matériel roulant, tout ce qui peut permettre à une personne d'être autonome.
D'accord.
Voilà, donc c'est ça. Ensuite, mes plus grands projets, c'est... le premier, c'est une promesse que j'ai faite à ma maman, à savoir lui construire un restaurant. Car je voudrais montrer à tous les jeunes que l'amour d'une mère, des parents transcende tout. Et l'unique chose que doit les guider, c'est de donner le bonheur à leurs parents. Dieu merci, ça y est en bonne voie.
D'accord.
Après, je voudrais construire un centre inclusif pour la formation de tous les personnes handicapées, les enfants et les...
Alors
les...
ici ou au Burkina Faso?
Ça, c'est au Burkina Faso.
D'accord.
Mais ici, mes projets ici... C'est, je suis en train de préparer actuellement la traversée du massif central, long de 1400 kilomètres.
Vous allez traverser comment?
Un tricycle. Donc, je vais pédaler avec mon unique jambe, avec la force de mon unique jambe, et conduire avec mon bras. Et nous allons traverser le massif central.
Nous, qui ça?
J'ai avec moi une équipe qui s'appelle les Mempa Cap. Ça veut dire les
mêmes les caps finalement.
Voilà, les mêmes pas capables. On va prouver que c'est possible de le faire. Et c'est un exploit sportif, technique et un projet humanitaire et solidaire au profit de l'association L'Indispensable Gîte pour tous.
Et vous allez partir quand du coup dans cette belle aventure?
On part à mai.
En mai, Inch'Allah, comme on dit chez nous.
Le but étant de récolter le maximum d'argent à travers des cagnottes en ligne et des dons pour la construction d'un gîte en France pouvant accueillir toutes les personnes à besoins spécifiques, des enfants handicapés ou non, des familles, des randonneurs avec des activités inclusives et diversifiées. Je vais donner cette possibilité à des enfants handicapés et non handicapés de pouvoir côtoyer, de pouvoir apprendre l'un de l'autre. Parce que moi, je n'ai pas eu la chance de pouvoir sortir beaucoup quand j'étais plus jeune.
Ouais.
Et je pense que c'est normal aujourd'hui que je permette à ces enfants de pouvoir être comme tous les autres enfants. C'est tous ces projets qui nous donnent envie de vivre et qui nous permettent d'avoir le sourire quand on permet à une autre personne de vivre mieux.
Ah ben vous nous avez donné le sourire en tout cas durant toute cette émission et on vous remercie infiniment Ismaël. Merci également aux auditeurs qui nous ont appelés, Aïssata, Boubacar et Kadi Diatou. Ils sont nombreux mais malheureusement on ne peut pas prendre tous les auditeurs en ligne. Merci encore à vous Ismaël et j'espère à très vite.
C'est moi qui vous remercie et c'est vraiment une fierté de pouvoir passer dans votre émission et j'espère que les autres radios prendront le même pas pour pouvoir faire écouter ou entendre les personnes handicapé. Je vous remercie.
Alors, on dit quoi? Diaranjai.
Et samedi prochain, ne ratez pas votre émission « Alors on dit quoi ?» sur RFI. Nous aborderons la question de l'héritage et de la succession des femmes africaines, du patriarcat au matriarcat, du mariage civil au mariage coutumier. Les questions d'héritage restent et demeurent des sujets sensibles et très délicats en Afrique. Si vous aussi, vous souhaitez apporter votre témoignage sur cette question de succession, appelez-nous au 33 647 740 742. À présent, place à notre première pause musicale avec Yemi Alade, qu'on ne présente plus, avec son titre « Boum Boum ».
Shakira and Beyoncé from Miami. I like you chill, chilling with Duse and Jay-Z. Just go down when the music come up, put it down. I'm like, say we are Rayvan up. Oh, yeah. Turn up when the music come, we are da-da-dee-dee. Oh, yeah. Go down and down. Everybody know when the DJ. One for the party, two for the shawty, three when you shake your bum, 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 bum. See, see, me I like to party. Party with the girls, make your body, yeah.
Nous parlions d'handicap, et bien figurez-vous que cette question d'intégration des personnes en situation de handicap est justement le credo du danseur et chorégraphe malien Abdoulaye. Abdoulaye, bonjour.
Bonjour Diarra.
Alors vous Abdoulaye, vous êtes comédien, vous avez fait de l'insertion professionnelle votre credo, mais pas à destination de n'importe qui. Parlez-nous de la particularité de cette insertion professionnelle.
J'évolue à l'intérieur d'une compagnie de danse, Famou Danse à Bamako, qui est lancé depuis 2017. Et comme première activité, en 2017, le fondateur de la compagnie, Daouda Keïta, il voulait apprendre la langue des signes, puisqu'il est danseur. Et savoir comment les sourds-muets, ils transmettent l'émotion, les sentiments avec le corps, avec l'expression corporelle.
Alors concrètement, vous proposez une formation professionnelle à destination de jeunes malentendants maliens.
Maliens.
Alors comment va se dérouler ce programme de 2 ans ?
Alors ça va se faire pendant 2 ans. Les jeunes gens, ils seront formés en danse et en théâtre. Ils vont apprendre les techniques de danse, danse traditionnelle, danse contemporaine, un peu de classique. Donc leur donner la base. Et après, inviter ces jeunes gens à faire aussi des créations. Et à la fin de la formation, les jeunes gens, on leur proposerait, ceux qui veulent bien sûr continuer avec le projet, s'ils veulent intégrer
la troupe.
Non seulement notre troupe ou la compagnie de d'autres danseurs, et, ou bien s'ils veulent eux-mêmes créer leur propre compagnie.
D'accord.
Donc voilà un peu l'idée.
Mais du coup, ils sont, c'est Famou Danse, c'est ça comme ça s'appelle ?
Famou Danse, c'est ça la compagnie. Et le projet, c'est Parole de Corps.
Parole de Corps.
Voilà.
Et mais Abdoulaye, du coup, eux sont sourds et malentendants. Comment vous communiquez avec eux ? Comment eux arrivent à justement parler avec vous, les professeurs ?
C'est ce qui est intéressant avec la formation. C'est-à-dire que dans un premier temps, nous apprenons les langues de signes avec eux.
Ah, d'accord. Pendant donc, êtes-vous aussi formé au langage des signes ?
Exactement. Donc, d'accord. Ils nous forment en langue des signes. Et après, nous, on leur transmet notre petit savoir-faire en danse et en théâtre.
Mais comment ça se passe pour la musique, alors, vu que...
La musique, il y a certains sourds-muets qui sentent la vibration des sons. D'autres, ils ne sentent rien du tout. Mm-hmm. Maintenant, ceux qui sentent la vibration des sons, eh bien, les autres qui ne sentent rien vont les suivre, ils vont les observer pour pouvoir être dans
gestes.
Une exactement chorégraphie commune. C'est un peu comme ça que ça évolue.
Et comment, selon vous, la danse et le théâtre peuvent contribuer à améliorer la vie de ces jeunes ?
Déjà, parole de corps, c'est un peu cela, c'est-à-dire leur donner la parole, Nous avons constaté que au Mali, beaucoup de jeunes handicapés n'ont pas leur parole dans toutes les questions.
On ne les entend pas.
Donc, l'idée, c'était de leur donner la parole. Et avec le théâtre et la danse, nous avons vu que la culture participe beaucoup au développement de notre pays. Malgré la crise que le Mali connaît, le secteur culturel est l'un des secteurs qui tient bien. Nous avons 2,7% dans le PIB national, plus que les banques et les assurances. Donc, nous avons dit, ce sera une bonne idée que ces jeunes gens aussi soient formés à ces techniques de danse et de théâtre, que ça ne soit pas seulement réservé à des gens, entre guillemets, normaux, même si nous avons aussi nos lacunes et nos handicaps. Donc, l'idée, c'est de permettre à ces jeunes de s'épanouir à l'intérieur de la danse et du théâtre. Et plus tard, s'ils veulent être professionnels dans le métier, les ouvrir les canaux pour qu'ils puissent intégrer le réseau professionnel de la danse et du théâtre au Mali afin de pouvoir faire des créations et pouvoir y vivre.
Et pourquoi vous participez au projet? Pourquoi avoir fait le choix d'orienter cette formation à destination de jeunes handicapés au Mali?
Parce que nous pensons que le Mali, c'est l'ensemble des enfants du Mali, y compris ceux qui ont aussi des handicaps. Donc, ils ont leur mot à dire. Ils ont leur participation dans le développement social et économique du pays. Donc, pour cela, ils ne peuvent pas rester à la marge. Donc, en ce sens, que ce soit notre projet ou d'autres domaines d'activité au Mali, je pense bien que les handicapés au Mali doivent être intégrés dans tous les secteurs d'activité. C'est comme ça nous pouvons faire commun, c'est comme ça nous pouvons faire nation. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas entendre qu'ils ne peuvent pas danser ou qu'ils ne peuvent pas faire du théâtre.
Un beau message en tout cas. Merci infiniment Abdoulaye d'avoir répondu à nos questions.
Merci Gare.
Alors on dit quoi?
Bonjour, je m'appelle Pascal Malonda et je suis l'auteur de deux livres. Le premier s'intitule « La révélation des fils de Dieu » et le second « Qui suis-je ?» Quel est le regard que je porte sur l'Afrique? J'ai vraiment un regard très positif sur ce continent. J'ai eu le privilège de visiter plusieurs pays d'Afrique. Et ce qui m'a le plus interpellé lors de ces visites, c'est vraiment la jeunesse de la population. Et c'est de voir ces jeunes garçons, ces jeunes filles qui vont à l'école, qui vont à l'université, ou qui travaillent, ou qui cherchent à travailler. Et je me rends compte en fait que l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui commence vraiment à investir dans sa jeunesse, car la jeunesse est l'avenir du continent et l'avenir des pays qui composent l'Afrique. Alors je voudrais adresser un message à mes frères et sœurs africains, à mes aînés premièrement, en leur disant que l'Afrique qui gagne passe automatiquement et nécessairement par eux, car vous êtes les exemples, vous êtes les modèles sur lesquels s'appuie la jeunesse. Et en vous ressemblant, ils participent au changement de la nation. Et j'adresse un message à la jeunesse. La clé pour réussir sa vie, c'est de comprendre quelle est son identité. Je peux voir que pas mal de jeunes vivant en Occident, aux États-Unis ou au Canada, reviennent dans leur pays d'origine ou dans le pays d'origine de leurs parents, retournent en Afrique parce que eux aussi voient le potentiel de leur pays et ont envie d'investir leur temps, leur argent et leur passion pour voir cette Afrique briller comme tous les autres continents. Pour moi, l'Afrique qui gagne, elle est pour bientôt. Elle ne dépend pas uniquement des dirigeants, mais elle dépend de chaque citoyen, chaque homme, chaque femme. Et je pense que si chacun travaille ensemble et s'unit, alors on aura vraiment l'Afrique qui gagne.
L'Afrique qui gagne, c'est pour bientôt, nous dit Pascal. Moi, j'ajoute que l'Afrique qui gagne ne peut être construite que par nous, les jeunes. Alors ne restons pas les bras croisés et agissons en faveur d'un réel changement. Un changement que vous pouvez amorcer en nous lançant un message sur le compte WhatsApp d'Alors on dit quoi. Présentez-vous avec votre nom et prénom. Définissez-vous en trois mots-clés. Adressez ensuite votre message à la jeunesse africaine, puis aux aînés. Et expliquez-nous votre vision de l'Afrique qui gagne.
Appelle-nous sur WhatsApp au 33 647 740 742.
Alors on dit quoi, dit stop aux infox qui circulent partout sur Internet. Dans cette émission, on vous propose de vérifier des faits consacrés à l'Afrique qui ont circulé sur Internet en collaboration avec l'école de journalisme EGICOM à Dakar et le site de vérification des fausses nouvelles Africatiek. Bonjour Valdez.
Bonjour Diara.
Alors, élection présidentielle oblige, nous nous arrêtons aujourd'hui sur une déclaration d'un candidat à l'élection présidentielle du 24 février qui a récemment déclaré que les familles sénégalaises sont au minimum composées de 10 personnes. Est-ce vrai, Valdez ?
Alors, très rapidement, je vais situer le contexte dans lequel Madi Kenyan, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a fait cette affirmation. Il s'exprimait lors d'une émission de la chaîne de télévision 7 TV le mercredi 30 janvier 2019 sur des questions relatives à la prochaine élection présidentielle, notamment sur le programme Yonou Yokouté, initié par le président sortant Macky Sall. Je rappelle, Mariama, que Madi Kenyan est un des 5 candidats retenus pour cette élection présidentielle du 24 février 2019 au Sénégal.
Et donc, sait-on par exemple sur quelle preuve le candidat Madi Kenyan s'est appuyé ?
Pas vraiment, Diarra. En tout cas, nous avons contacté l'équipe du candidat et c'est ainsi que le responsable de la diaspora de la coalition Madiké 2019 nous a expliqué que son candidat essayait de dire que chaque émigré a derrière lui au moins 5 ou 10 personnes. Ce dernier nous a aussi dit qu'il n'y a pas de documents officiels et qu'ils se sont basés sur le nombre de Sénégalais de la diaspora. Il estime donc que chaque Sénégalais de l'extérieur a au moins 5 ou 10 personnes ici au Sénégal comme membres de sa famille, donc vraiment rien de précis.
Et vous, Valdez, condamnez vos recherches ?
La première chose à savoir est que les informations sur ce sujet sont plus ou moins vieilles. Pourquoi ? Parce qu'elle figure dans le rapport final de l'Atlas démographique du Sénégal publié en août 2016 par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Or, Diarra, ce document s'appuie largement sur les chiffres du recensement général de la population et de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage effectué en 2013, quand le Sénégal enregistrait alors une population de 13 508 715 habitants. Mais revenons sur l'Atlas démographique du Sénégal publié en 2016. Il indique que la taille moyenne des ménages au Sénégal est de 8 personnes. Le document précise tout de même qu'il existe des disparités selon les départements. C'est ainsi que dans le département de Canel, dans le nord du pays, un ménage compte plus de 11 personnes en moyenne. En revanche, la taille d'un ménage dans le département d'Oussouye, dans le sud, est de moins de 5 personnes par ménage. Il en est de même pour le département de Dakar à l'ouest et celui de Salimata dans le sud.
Du coup, on conclut que la déclaration du candidat Madi Kenyan n'est pas factuelle.
C'est bien ça, Diarra.
Merci et à la semaine prochaine, Valdez.
Bah, salut à tous, je suis Lili Kossiberou. En fait, ma chanson Maronou, c'est une chanson d'amour à la base par laquelle il y a un homme qui rassure sa compagne, sa bien-aimée, qui traduit un peu les violences conjugales en fait, et appelle vraiment à la tolérance et à la compréhension en fait.
Il est jeune et frais et sa voix l'est également. Loco Homo à l'état civil, Niyi Kossiberou est l'une des perles de l'afropop béninois. C'est mon coup de cœur de la semaine. Place donc à la seconde pause musicale de l'émission avec son titre Maronou.
Baby, man, check out for a gun. Now only you are my toad. You want me more put you love. You want me more feb, I'm a bully. Girl, I will love you tender. Treats well at the day of my days. Yeah, you want me more put you love. You want me more feb, I'm a bully. Girl, I will love you tender. Treats well at the day of my days. Fisher.
C'était Niyi Kosuberu avec son titre Marounou. Je suis certaine que vous avez kiffé comme moi.
Oh, y'en a marre. Coup de gueule. Le coup de gueule.
C'est l'heure du coup de gueule d'Alors on dit quoi ? Cette semaine, place à celui de Muriel. Je vous laisse écouter.
Bonjour à tous, moi c'est Muriel, j'ai 25 ans. Je suis originaire du Bénin, de la Côte d'Ivoire et je vis en France. Et mon coup de gueule aujourd'hui va porter sur nos matières premières africaines. C'est-à-dire que lorsque je rentre en Afrique, que ce soit au Bénin, en Côte d'Ivoire ou dans n'importe quel pays, je me rends compte que je ne retrouve pas des produits faits à base de nos matières premières, c'est-à-dire en principalement des shampoings. Parce qu'en Europe, ici, j'utilise des shampoings à base de beurre de karité, de miel, d'huile d'avocat ou d'huile de coco. Mais quand je rentre en Afrique et je me rends compte que je ne les ai pas mises dans mes valises, il m'est impossible de trouver de tels produits faits par nos compatriotes africains, nos homologues africains. Et c'est tout à fait dommage parce qu'on dispose de la matière première, de l'intelligence. Et l'Afrique étant le continent du futur, ayant de jeunes créatifs, il serait bien qu'on creuse le secteur industriel, agricole, afin d'améliorer notre capacité à produire des produits made in Africa.
Si vous aussi vous souhaitez passer un coup de gueule, eh bien partagez avec nous vos convictions en nous envoyant en vidéo de 2 minutes, s'il vous plaît, votre coup de gueule que vous pouvez nous adresser sur notre WhatsApp ou sur notre page Facebook.
Alors, on dit quoi ? Sur RFI.
Alors on dit quoi ne rate pas une occasion de vous livrer des conseils pratiques pour améliorer notre vie, améliorer notre quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler d'anglais, même si, bien sûr, chez RFI, nous adorons notre beau français. Bonjour Joanne.
Bonjour Tiara.
Aujourd'hui, vous nous livrez quelques astuces pour apprendre facilement la langue de Shakespeare.
Exactement.
Par quoi commencer ?
Alors, on commence par se définir un objectif. Ça peut paraître évident, mais si vous n'avez pas une motivation claire pour apprendre à parler anglais, vous allez vite décrocher et vous ne tiendrez pas longtemps. En général, les gens apprennent l'anglais pour avoir un atout professionnel supplémentaire. Et vous alors ? À quoi vous servira l'apprentissage de cette langue ? C'est la première chose à savoir.
Et une fois qu'on le sait, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, il faut se plonger dans la langue. Je vous explique. Une langue, ça se vit au quotidien. Cherchez à interagir tous les jours avec l'anglais. Vous avez des amis anglophones ? Passez plus de temps avec eux. Vous avez l'opportunité de voyager ? Choisissez un pays anglophone, qu'il soit africain ou non. Vous aimez la musique américaine ? Prêtez attention aux paroles plus qu'aux sonorités pour essayer de détecter ce qui est dit. Et ça marche aussi pour les séries et les films. Regardez-les en version originale avec des sous-titres en anglais, of course. Vous pourrez les retirer progressivement par la suite. Et c'est aussi valable pour les livres, les journaux, les articles, choisissez-les en anglais. Plus vous passerez de temps avec cette langue, plus elle vous sera familière.
On dirait que c'est très simple.
Bah oui, en fait, c'est pas très compliqué d'apprendre à parler anglais. Mais moi, j'ai juste une dernière recommandation. Sachez tirer profit d'Internet. Le web regorge de plateformes d'apprentissage et d'applications pour apprendre l'anglais. Parmi les plus célèbres, Duolingo ou encore BBC Learning World, qui ont l'avantage d'être totalement gratuites. En plus de l'écrit, certaines applications vous permettront même de simuler des conversations orales. Et qui dit Internet dit aussi podcast. Un podcast, c'est un contenu audio diffusé sur Internet et accessible à tout moment. Par exemple, si vous souhaitez réécouter cette émission, vous pouvez trouver le podcast sur le site de RFI une fois le direct terminé. Mais là, on s'égare. Les podcasts sont à la mode et plusieurs d'entre eux vous permettront d'apprendre l'anglais. N'hésitez pas à vous abonner. En fait, il existe tellement d'astuces pour apprendre une langue que je pourrais passer la journée entière à en parler. Mais je vous demanderai juste de retenir une chose. Amusez-vous. Prenez du plaisir et surtout, n'ayez pas peur de faire des fautes. Comme disent nos amis anglophones, « Mistakes are proof that you are trying ».
Thank you very much, Joanne.
You're welcome, Dara.
Mais je préfère quand même le français. Place à présent à la rubrique culture d'Anna. Bonjour Anna.
Bonjour Diarra.
Vous nous parlez aujourd'hui d'un festival très particulier.
Oui Diarra, alors cette semaine, j'ai eu envie de vous donner rendez-vous au Mali, précisément à Sibi,
à 45 km de Bamako, dans la région de Mandé. Eh bien, figurez-vous que là-bas se tient la 6e édition du Festival Bogoja, un événement organisé par l'association du même nom et qui est un concours de décoration de maisons traditionnelles en terre. En fait, il débute ce samedi jusqu'à demain dimanche et l'idée c'est de mettre en avant le talent et le savoir-faire des femmes de la région. Des femmes qui ne sont pas à court d'idées pour embellir leurs maisons en terre.
C'est cool Anna, moi j'adore ce type d'événement parce que ça revalorise enfin notre riche patrimoine culturel.
Exactement, parce qu'ici l'objectif est de convaincre les gens de Sibi que construire en terre n'est pas dégradant ou archaïque. Au contraire, bâtir en banco est une forme de construction adaptée au climat. Ce matériau local est plus isolant et économique. Les constructions en banco, surtout en banco stabilisé, sont très esthétiques, confortables et modernes. Le but est aussi de réussir l'implication féminine dans un projet collectif et citoyen pour le développement de la localité. Et enfin, ça profite à l'économie locale parce que des gens viennent visiter ces belles maisons originales.
Et comment participer à ce concours, Anna ?
Eh bien, la maison doit être bâtie sur la commune de Sibi, construite en terre, et les matériaux utilisés pour les décorations doivent être naturels et traditionnels. Un jury de 3 femmes venues de Bamako a sélectionné les meilleures décorations sur la base de critères bien définis. Au-delà du concours, il faut savoir que c'est une fête populaire, le Festival Bogoja. Durant ces 2 jours, on y retrouve des expositions, de la danse, des spectacles, de la musique et bien plus encore.
Merci Anna. Et d'ailleurs, Alors on dit quoi se rend bientôt au Mali. Nous serons le 22 février au Forum de Bamako pour enregistrer une émission spéciale au sein de l'université. Chers auditeurs maliens, on vous attend de pied ferme et on parlera notamment du dynamisme des startups maliennes. Et samedi prochain, ne ratez pas votre magazine. Alors on dit quoi ? On parlera de l'héritage et de la succession des femmes. C'est une épineuse question où l'on constate malheureusement que la femme reste lésée quand il s'agit d'héritage dans de nombreux pays. Alors réagissez et dites-nous ce que vous en pensez. Le temps passe très vite, alors on dit quoi ? C'est déjà terminé. Donc vous l'avez compris, concrètement, ce qu'on attend de vous chaque semaine, c'est que l'on interagisse ensemble. Envoyez-nous vos initiatives, partagez vos découvertes musicales. Dites-nous aussi sur quoi vous avez envie de débattre et quel est votre coup de gueule. N'oubliez pas aussi de nous laisser un message sur le répondeur de notre émission au 33 647 740 742. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à toute l'équipe de l'émission, Beverly, Mariam, Dibril et Guillaume. On se retrouve samedi prochain, même heure, même fréquence sur RFI. Salut, Rangongol, à bientôt.